Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Boutin.
18h, tout pile. Et oui, on est en mode Coupe du Monde, ça y est, c'est demain. Dans 24 heures, ça sera le début de la Coupe du Monde avec cet alléchant Mexique, Afrique du Sud. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres affiches qui seront grandioses durant la Coupe du Monde. On va se régaler. C'est demain. Demain, avec une émission exceptionnelle, délocalisée, Rotten sans flamme en public. On vous dira tout pendant l'émission. Ça va être génial. Et on est, comme tous les soirs, avec une magnifique équipe. Ah oui, on commence à sentir l'excitation. Hein. Benoît Boutron, salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ah Benoît.
Ah, je suis excité et je suis à bloc là. Oh, j'ai hâte de faire découvrir à nos éditeurs tout ce qu'on prépare pour la Coupe du Monde. Ça va être fantastique.
Que des surprises. Déjà, une des premières surprises, c'est que Christophe Dugarry sera avec
bien
nous
sûr.
Toute la compétition.
Et
salut
oui.
Dugas.
Salut Dugas.
Salut mon poulet, mais c'est pas une surprise. Moi, le travail, le boulot, la passion du foot, c'est pas
vrai.
Une surprise, bien évidemment.
C'est vrai.
Oui, Christophe, c'est boulot.
C'est vrai. Ouais. En plus, tu l'as dit,
sûr,
c'est pas.
J'ai ça dans le sang.
C'est pas un travail, c'est la passion. C'est la passion.
Et oui,
on a un travailleur passionné aussi. C'est évident.
Boulot.
Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai une patate de ouf.
Ah bah excellent.
Il a gagné plus que d'habitude aujourd'hui.
Il parle comme les jeunes. C'est horrible, un vieux qui parle comme les jeunes. C'est horrible.
On dirait les textos que je t'envoie du gars.
Ah ouais. Et du gars
de ouf. Ou des trucs comme ça.
Du gars, toi qui as bossé la Coupe du Monde, tu peux nous rappeler le match d'ouverture?
Afrique du Sud, Mexique.
Ah, pas non, mal.
Mexique,
bravo.
Afrique du Sud.
Ah, bravo, Afrique du Sud.
Ah, Mexique,
bravo,
Afrique du Sud, pardon.
Écoute,
Là, ça y est, je suis rentré dedans. J'ai un peu de mal.
Jérôme.
J'ai un peu de mal parce qu'il y a beaucoup de matchs, la compète. Là, au début, ça devait être 3 poules, maintenant c'est 4, 2 qualifiés.
T'as pris ton visa,
les meilleurs deuxièmes. En gros, tout le monde est qualifié, donc c'est voilà. D'ailleurs, ça, c'est plus simple.
Ouais.
Donc, on essaiera de se réveiller à partir des 16e de finale. Voilà.
C'est ça. Oh non, il y a un Brésil-Maroc, il y a des matchs intéressants quand même.
Oui, mais ils sont tous qualifiés.
Ils sont qualifiés quand même. Bon, on verra les matchs.
Non, mais ils sont intéressants. Mais ils sont pas comment dire,
c'est des matchs de préparation
récents, mais ils ont pas d'intérêt,
ils sont pas coup près, ils sont pas coup près,
voilà. Il y a largement le temps de se
remettre. Oui, exactement.
Jérôme,
si le Maroc, ton équipe perd le premier match, c'est pas grave, ils se qualifieront quand même.
Jérôme, il est 18h02, nous sommes le 10 juin, et levons le voile sur un grand secret. Rotten sans flamme sera bien en public tout au long de la Coupe du Monde, et ça démarre demain en public, en plein cœur de Paris. On lance les grandes soirées de Coupe du Monde à la brasserie Flora sur les grands boulevards. C'est en plein cœur de la capitale. Si vous sortez du boulot, et ça va devenir l'habitude. Vous sortez du boulot, vous allez sur les grands boulevards. Vous aurez toute la dream team de Rotten sans flamme. Jérôme, Christophe Garrier, Dimeco, Jean-Michel Larquet, Manu Petit, Benoît Costil, Soulé Diawara, Younes Belanda, tout le monde sera là. Steve Savidan, n'hésitez pas. Donc la brasserie Flora en plein cœur de Paris, et en tout cas nous on n'est pas concernés par le chiffre d'affaires, mais on est là pour vous régaler avec un écran géant pour suivre tous les matchs. Ouais, t'inquiète pas,
t'as vérifié que Jérôme il prend pas un petit billet derrière?
Au début non, bon après on verra,
pour l'instant je le fais gratos. Après si on est bon, ça sera plus gratos.
C'est toujours pareil avec Jérôme, au début c'est gratuit, puis après bon.
Non mais venez, c'est ouvert à tous,
franchement on va se régaler,
ouvert à tout le monde.
Et venez dès demain, on y sera dès demain sur les Grand Boulevard à Paris, à la brasserie Flora. On va se régaler. Et dès ce soir, nous serons partout, aux États-Unis, à Mexico, à la veille de ce match d'ouverture, à Boston, sur le camp de base de l'équipe de France. Les Bleus qui sont dans l'avion actuellement. Donc, restez avec nous jusqu'à 20h. Vous saurez tout de la Coupe du Monde qui démarre demain sur RMC. À 19h30, justement, la VAR de Rotten s'enflamme. Est-ce que les joueurs doivent manifester leur mécontentement? Les problèmes de visa, le traitement réservé à l'Iran, l'arbitre somalien qui a été renvoyé en Turquie. On débat de tous ces sujets avec vous au 32-16. Un bel invité, Jérôme, à 18h45 dans le Halo Jérôme. Chris, le policier, l'ancien défenseur de Lyon, l'ex-international brésilien. Est-ce que le Brésil fait partie des favoris? Vous venez là aussi en débattre avec nous. Et puis l'actu des clubs également dans Rotten sans flamme ce soir à 19h. Rotten se chauffe. À quoi joue le Real Madrid? On l'a appris pendant Rotten sans flamme hier. Cette offre de 150 millions d'euros pour Julian Alvarez. À quoi ça rime après l'élection de Florentino Pérez? Et puis à 18h30, on va parler de l'OM, supporter marseillais. On va ouvrir le procès de tous ceux qui pensent que l'OM doit vendre Mason Greenwood. La presse italienne parle d'un accord entre le joueur et la Roma, et il faudrait désormais que les deux clubs puissent s'entendre, donc la Roma et Marseille, pour la vente de Mason Greenwood, qui est sous contrat jusqu'en 2029. Mais il est 18h04, vous écoutez RMC, et Jérôme, c'est la dernière danse de Deschamps aux États-Unis.
Le ballon qui va rentrer directement pour la tête de qui ? Le but ! Oh ! Ouverture du score ! Ouverture pour les Allemands !
Ça s'est joué à peu de choses face à une équipe qui est plus expérimentée, qui a l'habitude de ses rendez-vous.
Eder qui accroche par le maillot Koscielny, l'arbitre ne dit rien, Eder dans l'axe, Eder la frappe !
Il manque ce titre. Bon, il faut l'accepter. C'est le football. Parfois, c'est cruel, c'est injuste.
Mbappé, la frappe à rouler. De qui est Mbappé ? Putain, qui siffle ? La France est champion du monde. La France, sa deuxième étoile. Les Bleus sont champions du monde en battant la Croatie 4 buts à 2. Kylian Mbappé face à Sommer. Kylian Mbappé. Arrêt de Sommer. C'est un cauchemar pour Mbappé. C'est un cauchemar pour l'équipe de France qui est éliminée.
Les pénaltys, c'est toujours un peu la loterie. Donc il faut l'accepter. Quand ça se passe moins bien, c'est ma responsabilité.
Kylian Mbappé qui remet. Hugo fait là, Hugo sort là, avec la course de Montiel. À contre-pied, c'est fini.
Ça nous honore de reconnaître que les Argentins nous ont mangé pendant 80 minutes et ça n'empêche pas qu'on va trouver les points positifs de ce qu'a fait l'équipe de France.
RMC, Coupe du Monde de Football, FIFA 2026.
Coup d'envoi dans un jour.
La dernière danse pour Didier Deschamps aux États-Unis, sa dernière compétition internationale. Ce sera la 7e pour lui qui a repris les Bleus à l'issue de l'Euro 2012. Il avait succédé à l'époque à Laurent Blanc. Demain, c'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde sur RMC. On vous l'a dit, match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Les Bleus sont dans l'avion actuellement. Ils ont décollé ce matin du Bourget direction Boston. Boston, où l'on retrouve Florent Germain sur place. Salut Fraté.
Salut les amis, salut à tous.
Oh, il est bien. Salut.
Ah ouais.
On est bien à Boston, bien installé.
Alors, petite coulisse, et ça vient de la part de tous nos reporters sur place. On a un peu de mal pour l'instant à RMC Sport à digérer le décalage horaire. Ils sont tous réveillés à 4 ou 5 heures du matin.
Non, mais là, info totalement infondée. On était à bloc dès 6 heures ce matin. Non. Alors là, je m'inscris en faux. Je peux te dire que Arthur Valentin et moi-même, on était à bloc des potrons minés. Non.
Bon, dis-nous à quoi ça ressemble alors ce camp de l'équipe de France à Boston.
Bah écoute, oui, on les attend. C'est vrai qu'ils ont décollé même à 14h finalement, un peu plus tard, heure française. Donc arrivée prévue à 21h30, ça fera 15h30, heure de Boston. Bon, une petite ville sympathique hein, quand même, Boston, où ici, il fait pas si chaud que ça. C'est un petit peu plus compliqué du côté de la Bentley University. C'est là le centre d'entraînement où on a une pelouse en très bon état. C'est vrai qu'il y a la piste d'athlétisme, quelques routes goudronnées. Donc on a ressenti là lors de notre petite visite que c'était peut-être moins supportable du côté du centre d'entraînement, donc il faudra être vigilant par rapport à cela. Mais concernant l'hôtel, il a été repéré en mars, il a été choisi parce que les Bleus ils seront très très bien avec une vue sur certains jardins. Il y a un hôtel qui est quasiment privatisé dans son intégralité, deux étages où il y aura les chambres, les salles de fitness, les bains froids, la piscine, un cuistot français, enfin tout ce qui va faire que les Bleus seront dans un petit cocon. Ils vont prendre leur marque quand ils vont arriver. L'objectif, c'est de digérer petit à petit le décalage horaire, donc une heure par jour à digérer, donc c'est 6 heures de différence par rapport à la France. Peut-être que d'ailleurs le match entre les Knicks de New York et les Spurs de San Antonio ce soir sera l'occasion idéale de veiller un petit peu plus tard, mais on a des Bleus qui vont prendre leur repère et petit à petit se plonger dans cette Coupe du Monde. On rappelle que leur premier match, ce sera le mardi prochain contre le Sénégal.
Exactement, à suivre sur RMC. Flo, on parlait de Deschamps, la 7e compétition majeure pour lui, la 4e Coupe du Monde. Quel est le bilan alors en termes de chiffres ?
Bon, on va se baser sur les grandes compétitions. On va mettre de côté la Ligue des Nations qui a été remportée certes en 2021, mais si on fait un petit rappel très factuel des grandes compétitions Euro et Coupe du Monde, il y a ce quart de finale, on a entendu les commentaires tout à l'heure, perdu en 2014 contre l'Allemagne. On va mettre ça sur le compte de Bleu qui était en reconstruction. Il y a eu deux finales perdues qui auraient donné un tout autre relief au mandat de Deschamps. Donc l'Euro 2016 à la maison et évidemment la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Finale d'anthologie certes, mais avec des regrets éternels. Le Graal général, c'est la Coupe du Monde 2018, cette deuxième étoile, champion du monde, un jeu critiqué, mais malgré tout, des matchs qui ont marqué les esprits, le 4-3 contre l'Argentine ou le 4-2 en finale contre la Croatie. Et puis deux échecs. Bon, le vrai couac, c'est l'Euro 2021, la défaite face à la Suisse en huitième de finale au tir au but. Alors échec ou goût amer, mais en tout cas une demi-finale perdue contre l'Espagne. Le sentiment que la France était surclassée par les futurs champions d'Europe, avec un jeu qui a été très critiqué lors du dernier Euro. Donc pour le coup, Deschamps, avec son système offensif, la quête d'une troisième étoile peut finir en beauté avec cette dernière aventure pour cette Coupe du Monde ici aux États-Unis.
Merci Flo. T'as vu, on t'a posé aucune question sur l'OM. Donc profite de cette parenthèse équipe de France.
Je vous écouterai quand même à 18h30 avec grand plaisir.
Plusieurs semaines. Ah
ouais, il faut s'aérer l'esprit un petit peu.
C'est la une de Rotten sans flamme ce soir. Cette Coupe du Monde est-elle déterminante pour le bilan de Didier Deschamps, 32-16, pour participer au débat avec nous? Jérôme, est-ce que ça peut tout changer alors?
Écoute, oui, parce qu'on reste souvent sur la dernière image. Déjà, à court terme, je pense que Didier, on retiendra pas ce qu'il a fait il y a quelques années, mais on retiendra la dernière compétition qui est celle-là. Donc si l'équipe de France ne va pas très loin dans cette Coupe du Monde, n'a pas un jeu un peu spectaculaire, beaucoup plus que sur le dernier Euro, il faut reconnaître, qu'elle dégage pas collectivement plus de force que sur le dernier Euro, forcément les critiques vont fuser. Parce qu'il n'aura pas rempli les objectifs. Et l'objectif, même si le président de la Fédération française de foot nous raconte qu'une demi-finale, c'est magnifique, pour moi, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Il faut espérer aller au bout. Quand tu es double finaliste des deux dernières compétitions, des deux dernières Coupes du Monde, tu te dois encore... Alors, ça sera pas facile. Je dis pas que c'est facile. Mais si tu vas pas jusqu'à la finale, il faudra que ressorte un collectif très fort, avec une image parfaite et avec un jeu qui peut être spectaculaire. Et si, avec ces éléments-là, tu peux perdre des matchs de football parce que ça reste un sport qui est par moments très frustrant, tu peux dominer, tu peux être spectaculaire, tu peux montrer une grande force collective, mais des fois, tu peux te faire piéger sur des matchs à élimination directe. Donc, en fait, t'as aucune garantie en termes
toujours un peu de réussite.
Oui, d'objectifs de finale. T'as aucune garantie de ce côté-là, mais si tu n'y vas pas, il va falloir dégager beaucoup plus de choses positives par rapport au dernier Euro. Voilà, c'est ce que je pense, même par rapport à la finale au Qatar. Moi, j'y étais sur place tous les matchs, on avait vu, c'est vrai que la plupart des matchs, franchement, c'était pas flamboyant. La finale, Eric le dit dans la prod.
Ouais. Mais sur M6, c'était bien.
Hein. Ouais, sur M6, c'était bien.
Très bien.
C'était
ouais.
Très bien. Non, mais
c'est Eric Antoine qui commentait.
Mais même Duga, bon, je suis sûr que tu te rappelles de la Coupe du Monde au Qatar. Oui, si on va pas en finale et si les 10 dernières minutes, il se passe pas quelque chose de.
20-25
minutes. Ouais, allez, on va dire quelque chose de fantastique. La vérité, c'est que bah la compète elle était pas incroyable, tu vois. Donc je pense que l'image de Didier à court terme, elle se joue oui sur les performances de l'équipe de France. Après dans un second temps, oui. Mais ça dans quelques mois, on se rappellera en effet que sous l'ère Didier Deschamps et ça a duré 12 ans, il y a eu beaucoup plus 14. De bonnes choses, 14 ouais, pardon, oui. Beaucoup plus de bonnes choses que du négatif. Mais ça c'est la vérité, mais on reste souvent et malheureusement sur la dernière image et pour lui, il joue quand même assez gros sur cette compète.
Duga.
Déjà le président de la Fédé, mais quel pisse-froid alors. Mais c'est fou ça. Une demi-finale, ce sera bien. Non,
ouais,
c'est une blague
absolue. Quoi.
Non mais on est l'équipe de France, quoi. Il est où le drame? Il est où le malheur? Il est où le problème de dire qu'on y va pour gagner la Coupe du Monde?
Et plein en français.
Qu'est-ce qu'il y a de grave à faire ça en commun? Voilà, c'est président de la Fédé, il arrive déjà, le mec, il a le trou de mettre à zéro.
Non, mais il a le droit de dire que c'est une demi-finale, la compétition.
Mais il a rien le droit de dire.
Pourquoi?
T'arrives avec respect de la compétition, t'arrives avec respect des adversaires, mais tu es l'équipe de France, tu as des joueurs incroyables, on peut tous se voiler la face, on peut tous faire semblant. Continuons, allons-y. Aujourd'hui, arrêtons de se voiler la face. On fait partie des deux meilleures équipes au monde, on a les meilleures équipes. on a les meilleurs joueurs. Enfin, ce que je veux dire, c'est que cette Coupe du Monde, tu y vas pour la gagner et tu dois la gagner. Je suis désolé, tu dois la gagner. Alors après, bien évidemment, on sait tous que c'est le foot, on se nourrit de ça depuis toujours. Donc on sait qu'un match, ça peut tourner par plein de choses. Mais mon Dieu, cette finale, faut la gagner. Et si tu la gagnes pas, on verra les circonstances, on verra le jeu proposé. Mais tu ne peux pas aujourd'hui faire abstraction de la qualité de nos joueurs, de la qualité de nos joueurs offensifs, de notre milieu de terrain, parce qu'il y a aussi de la matière au milieu de terrain.
Les manières.
Voilà. Défensivement, il y a quand même de la matière. Alors, on a un problème sur les latéraux, je vous l'accorde, mais on a quand même de la matière. Dites-moi une équipe nationale qui est mieux fournie que nous en joueurs de talent. Il n'y en a pas.
En joueur de talent, non, mais en termes d'équipe, peut-être que l'Espagne, c'est aussi moins très fort.
Eh ben ouais, mais l'équipe, excuse-moi, mais Deschamps, ça fait 14 ans qu'il est là. Ça fait 14 ans qu'il est là, Deschamps. On peut espérer quand même avoir une équipe avec des joueurs où on va encore se contenter d'avoir juste des joueurs qui font pas partie d'une équipe.
Est-ce que cette compète est déterminante pour son bilan, alors?
Mais bien évidemment, et tu crois que bien évidemment, s'il gagne pas cette Coupe du Monde alors qu'on est ultra favori, ça sera un échec. Alors, on le regardera d'un œil assez global pour voir comment tu n'as pas été champion. Est-ce que ça peut être des expulsions, des coups de sifflet d'arbitre, il peut se passer plein de choses.
Après
on verra et on adaptera le discours. Mais partons de l'idée que si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de catastrophe, d'arbitre, de blessure, de machin, de ci, de là, l'équipe de France avec son effectif au complet doit gagner cette compétition. Ouais. Et moi je vois pas où est le problème quand t'as un sélectionneur qui est désigné depuis 14 ans ou presque, où on m'explique c'est le meilleur sélectionneur du monde, il est incroyable, il est génial, il est là, on va dire tu peux faire une demi-finale avec les joueurs que t'as. Mais même lui, mais Deschamps, je le connais un tout petit peu.
Oui, il va pas satisfaire de ça.
Il sait que même lui, c'est un gagnant. Il va pas aller là-bas pour. Il sait qu'il a l'équipe extraordinaire. Et je veux te dire une chose, s'il avait pas une génération extraordinaire, ça fait longtemps qu'il serait parti. Et pourquoi
il est resté parce qu'il a senti qu'il avait du potentiel.
Si t'as une génération comme ça, si t'as des joueurs comme ça, c'est pour aller gagner la Coupe du Monde. Il va aller la chercher. Je te dis, moi, je pense qu'ils vont la gagner. Donc, il va aller la chercher. Et ça fait partie de son travail, de sa motivation, de son envie. Et moi, je suis persuadé que Deschamps, il se dit pas, on va jouer une demi-finale. Et au fond de lui, il sait que s'il la gagne pas, ça sera un échec. Bien évidemment que ça sera un échec. C'est comme ça, c'est un compétiteur, il a gagné toute sa vie. Il y a aucun problème là-dessus. Et il a les joueurs pour. Tu vas dire quoi à un mec qui a un compétiteur dans l'âme, qui a tous les joueurs pour gagner la compétition, et il va se dire, je vais jouer petit bras, on va voir si on peut aller faire une demi-finale. Mais qui fait ça? Ça n'existe pas. Et je veux dire, quand ce sera Zidane ou quelqu'un d'autre, l'équipe de France, avec la génération qu'elle a, toutes les compétitions qu'elle jouera à l'avenir et qu'elle joue depuis longtemps, elle les joue pour les gagner. Et tu peux considérer que quand elle les gagne pas, c'est un échec. Alors tu mesures le degré de l'échec, mais ça reste un échec parce qu'on a ce qu'il faut pour aller chercher toutes ces compétitions et les gagner. Voilà, c'est tout.
Steve.
De toute façon, les gars là, ils ont levé le truc. C'est qu'en fait, il y a plusieurs choses. C'est le bilan, c'est la porte de sortie. Jérôme a évoqué est-ce qu'on retiendra de Didier Deschamps le jeu? Non, par contre, moi, je pense que ce qu'on ne retiendra pas, c'est justement son jeu, l'animation, le plaisir qu'éventuellement l'équipe de France nous a donné plus souvent que mauvais, tu vois. Moi, je pense qu'on n'a pas pris vraiment beaucoup de plaisir. Par contre, une chose est sûre, c'est que c'est une machine à gagner. Il sait comment amener ses joueurs à gagner des compétitions. Ça, il nous l'a montré. Duga l'a dit, il connaît beaucoup mieux que nous. Il sait gagner, c'est un compétiteur. Il veut aller jusqu'à la finale. Il veut même gagner cette Coupe du Monde. Et donc là, en fait, c'est de se dire, est-ce que maintenant, les joueurs de cette année sont synchro avec leur sélectionneur? Parce qu'on va en parler, lors des matchs. Est-ce que certains joueurs sont synchro avec l'idée de jeu? Exemple, sur les dernières compétitions, sur les derniers matchs, est-ce qu'il faudrait pas, avec le système offensif qu'on a, plus jouer en contre, avec une médiane basse, pour qu'on puisse jouer avec de l'espace, pour mettre certains joueurs en réussite? Ça va être une grande question. Parce qu'au final, est-ce qu'on a appris quelque chose de Didier Deschamps en tant qu'entraîneur? Je parle bien en tant qu'entraîneur. Je dis pas sélectionneur. Parce que ce qui était quand même assez facile pour lui, vu qu'on a quand même le meilleur, portefeuille, j'allais dire, le meilleur, effectif, toute génération confondue, mais même au niveau international. Dugas l'a évoqué, on prend toutes les lignes, tous les postes, en diagonale, en verticale, en horizontale. À chaque fois,
on a les meilleurs joueurs. Donc potentiellement,
c'est pas forcément un gage de réussite. Hein. C'est arrivé de voir le dire. Brésil avec la meilleure équipe du tournoi et pas gagner
le monde. Ça va être la pote à qui ? Alors t'as les meilleurs joueurs.
Non, ce que je veux te dire, c'est que en tant que sélectionneur, il a jamais eu de choix ultra très fort à faire. Il a jamais eu.
Je suis gêné par votre analyse.
Il a quand même les meilleurs. Par contre, en tant qu'entraîneur, c'est là où on peut évoquer. En tant qu'animateur, est-ce qu'on a vu des choses, des changements de système, des adaptations aux équipes adverses ?
Non, mais ça.
Principalement non, parce que faut mettre quand même le truc dessus. C'est que l'équipe de France, depuis une décennie, s'est adaptée, honnêtement, en tout cas dans le système offensif, à un joueur. Ce qui n'a pas toujours été gage de réussite, par contre.
Ça, c'est vrai.
Et là, aujourd'hui, c'est tout pour Mbappé, on le voit, c'est le débat par rapport à Kylian Mbappé. L'équipe de France, offensivement, s'est adaptée par rapport à un joueur. Et là, je remets tous les postes confondus. Les latéraux, alors je ne vais pas parler des centraux défensifs, les milieux de terrain, les joueurs des côtés, voire le numéro 10. Tous les joueurs ont été concernés par le système de jeu qui a voulu être mis en place pour Kylian Mbappé, mais c'est pas grave.
Oui, mais par contre, ça n'a pas été gage de réussite. Ça c'est pas.
Comme ça a été fait avec Messi,
c'est pas un problème.
Je pense qu'on peut reprocher des choses à Didier ou être.
Mais moi, je reproche rien là-dessus.
Non, mais être sceptique sur sa façon de faire jouer ses équipes, ça, on est d'accord. Après, c'est un débat éternel de toute façon et ça restera toujours comme ça. Ce qui est sûr, c'est que.
Bah, sauf qu'aujourd'hui, c'est plus le même problème.
Non, mais lui nous a donné la garantie quand même sur. On va parler sur les dernières coupes du monde parce que je parle pas des derniers euros parce que pour moi l'ambiance et tout ce qui non mais en plus les deux derniers euros que ça soit en 2021 quand il a été décalé à cause du Covid et le dernier donc voilà
et là en demi contre l'Espagne
et contre l'Espagne mais bah, même en termes d'ambiance dans le groupe ce qui est quand même la grande force de Didier de connaître les personnalités et de les faire bien vivre ensemble sur le terrain et aussi en dehors, je pense qu'il s'est un peu trompé. Tu vois, autant sur les Coupes du Monde, on était quand même à l'abri de tout ça.
Excuse-moi, Jérôme, ça c'est de la tambouille, Jérôme.
Oui, mais.
Deschamps, on sait, c'est la tambouille interne. Bon, oui. Voilà. Après, Deschamps, la garantie que l'on a avec Deschamps, c'est que c'est un gagnant. Il sait faire gagner ses équipes. Il sait faire gagner ses équipes. Excuse-moi, il a fait combien de compétitions ?
Il en a fait six.
Donc ça va être la septième. Ouais. Si sur la septième, il gagne qu'une fois,
Oui,
tu vois, c'est exactement ça qui me gêne dans ta réflexion, Duga. C'est qu'en fait, tu banalises une finale de Coupe du Monde ou une finale d'Euro ou un excellent parcours, une demi-finale. C'est comme si c'était évident, même si on a les meilleurs joueurs et la meilleure génération, d'atteindre la finale à chaque fois.
Non, mais Benoît,
regardez les autres nations. Regardez le Brésil qui n'a pas fait une demi-finale depuis 2014.
Brésil, on a un meilleur effectif.
Regardez les autres grandes nations du foot qui n'arrivent jamais à avoir la régularité qu'on a, en fait. C'est ça qui est fou.
Mais on a la meilleure génération à chaque fois.
Mais non, mais vous banalisez.
Et justement,
c'est fou.
Mais attends, tu m'as posé une question, laisse-moi te répondre.
Vas-y.
Justement, tu me parles du Brésil. On n'est pas le Brésil, on est la France. Soi-disant que Deschamps, il sait faire gagner, il sait trouver les combinaisons, la tactique défensive, il sait créer des groupes. On n'a jamais dit ça du Brésil. Tu connais les derniers sélectionneurs du Brésil ?
Non.
Nous, on nous explique depuis 14 ans que Deschamps, c'est un génie. Et qu'il est incroyable, et qu'il est fabuleux, et qu'il est. Alors, c'est pas très grave, on joue pas très bien, mais c'est pas grave, il sait gagner, il sait nous faire gagner. Mais moi, j'entends le discours depuis toutes ces années. Moi, je vois pas. Et puis, excuse-moi, cette corrélation de m'expliquer que c'est pas parce que t'as les meilleurs joueurs que t'es sûr de gagner, ok, oui, très bien.
Mais quand
t'as les meilleurs joueurs, c'est quand même mieux d'avoir les meilleurs joueurs pour gagner que d'avoir les moins bons. Donc, arrêtons quand même avec ce discours.
Mais même quand t'as les meilleurs, c'est pas une évidence de faire demi-finale.
Oui, mais quand t'as le sélectionneur qui sait tout faire.
Oui.
Eh ben oui, non mais d'accord, ok. Ça fait six compétitions. Il en a perdu cinq, ou il en a pas gagné cinq, pardon. Ouais.
Parce que perdu tu vois cinq, ce que tu dis, il en a dur. Perdu cinq.
Oui, ouais, mais pourquoi ? Mais parce que t'as l'effectif,
oui,
t'as les joueurs, t'as le meilleur sélectionneur, t'as tout ça.
Et puis parce que Duga, là où je te rejoins, c'est que quand t'es l'équipe de France, tu dois gagner, point final. Après, peu importe, tu peux regarder à côté. Tu peux regarder l'Espagne, l'Italie, qui participe plus aux grandes compétitions depuis pas mal d'années, l'Angleterre, l'Allemagne.
Oui, les Allemands, les Anglais qui ont jamais gagné.
Exactement. Oui, ça, on peut les critiquer. Ils sont critiqués pour ça. Et pourtant, il y a des équipes, regarde les Allemands, sur les dernières années.
Exemple parfait.
Mais les
Allemands, ils ont quoi comme joueur? Les Allemands, ils ont le meilleur effectif que nous, les Allemands.
Exactement, c'est ça.
Mais l'Espagne. La grande Espagne.
Mais,
l'Espagne parce qu'ils jouent en équipe. C'est peut-être ça, nous, qui nous manque depuis des années où on râle les uns les autres et moi le premier pour dire il faut un fond de jeu, il faut une qualité de jeu, il faut imposer quelque chose. Oui. J'espère que cette fois-ci, on va être capable de le faire avec les joueurs en France. Pourquoi on parlait de ça quand on parlait des performances de l'équipe de France? Oui, mais en termes de fond de jeu, en termes de, il n'y avait pas de patte, il manquait ce petit truc-là. Ça n'empêche pas de gagner, il l'a fait.
Et c'est pour ça qu'avec Didier, il joue gros, je pense, que si tu gagnes pas, en effet, si tu gagnes pas, eh ben, on se rappellera. Oui, on a été champion du monde en 2018, magnifique, pas de problème. Mais on se rappellera aussi, dans un premier temps surtout, que sur les dernières grandes compétitions,
il y a eu des échecs.
On les a pas gagnés.
Il a tout à gagner, il a tout à gagner, mais il a beaucoup à perdre.
Il a beaucoup à perdre.
Pierre, avec nous, 32-16, Jérôme.
Salut Pierre.
Oui, bonjour tout le monde.
Bienvenue Pierre. Bon, excité avant le début de la compète?
Oui, on est impatient, c'est que tous les 4 ans, donc on a envie de voir cette Coupe du Monde.
Ouais, exactement. Bon, qu'est-ce que tu penses de Didier Deschamps? Est-ce que pour toi, il joue gros sur cette compète?
Alors Didier Deschamps, il joue rien du tout, parce que son palmarès de joueur et d'entraîneur, de sélectionneur, parle pour lui. Qu'il gagne ou qu'il perd, je pense que ça n'entachera pas son image. Après, il va y avoir, si ça se passe mal, il va y avoir la manière dont on perd. C'est sûr que si on se fait éliminer en 16e, ça équivaudrait à se faire sortir de la poule, à pas sortir de la poule de l'ancienne version, parce que là, 3 sorties de poule par poule, on va sortir de la poule. Hein. Ça, c'est
clairement... Ah bah, quelle ambition, il est insupportable ce discours. Oh là 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 là.
Qu'est-ce qu'il y a du gars? C'est pas parce que tu t'es fait clasher pendant 1h30 sur Netflix que tu dois t'entendre un peu quand même.
Poteau, si j'y suis allé, c'est que j'ai les coronets.
Ouais, voilà,
c'est
ça.
Je suis pas caché.
C'était rigolo, il t'a rien dit, François.
Eh oui, mais c'est ça l'autodérision. Il faut savoir rigoler. Il faut savoir rigoler de soi-même aussi, mon poulet. Mais c'est pour ça, je te dis que ton discours, il est insupportable. Tu vois, si on est éliminé en 16e, bon, alors, et si on est éliminé en quart, ce sera mieux?
Eh ben, ça sera déjà mieux qu'être éliminé. Oh,
ouais, d'accord. Bon, allez, merci. Merci. Non, c'est bon, je suis plus là.
Ça dépend de la manière. C'est toujours pareil.
Sur Netflix, il a dit. Vas-y, Pierre, vas-y.
Ça, c'est quand même mieux si t'es plus là, apparemment, oui.
Vas-y. Au lieu de. On n'est pas là pour régler les comptes de Pierre-Paul Jacques. On est juste là.
Surtout que moi, je m'appelle Pierre. En plus, voilà. Et Dugarry, il m'attaque, je
vais
rien dire.
Non, mais bon. C'est monsieur Dugarry ou Christophe.
Ouais, c'est ça.
Monsieur Dugarry, pardon.
Bah oui, Pierre. Donc
moi, c'est Monsieur Pierre.
Arrête de regarder la télé.
Non, c'est un prénom, Pierre. Donc tu m'appelles Jérôme, tu appelles Christophe si tu veux ou Steve. Il y a pas de souci. Mais bon, peu importe. Moi, ce que je veux te dire, c'est que en effet, toi, tu te satisferais donc d'une élimination en quart de finale pour nous dire que Didier, c'est une réussite en équipe de France.
Alors, si j'avais pu aller au bout de mon propos.
Vas-y.
Je me satisferais oui et non, parce que sortir en quart de finale pour l'équipe de France, maintenant, ça serait une déception. Après, il va y avoir la manière de jouer. Si on prend du plaisir, qu'on se fait sortir en quart au pénalty, au bout d'un match exceptionnel contre une autre belle équipe, on sera déçu, mais on dira qu'on a quand même fait une belle compétition. C'est sûr que si on sort en quart de finale en se faisant balayer 4-0 par l'Allemagne ou par je sais pas qui, là, c'est sûr qu'on sera déçu. Mais après, Deschamps, est-ce que sur... la dernière compétition, ça va entacher sa réputation, son image de
toi. Tu dis que non, toi.
Bah, c'est tout le débat.
Moi,
t'as raison.
Moi, je pense pas.
Mais en fait, Pierre,
on a fait assez pour pas aller loin.
Par contre, si on veut aller loin, il faut que Deschamps, il fasse les bons choix aussi. Parce que de mettre Hernandez, qui est nul, de laisser Koundé qui avance pas, de mettre, comme dirait Monsieur Charvet, de mettre Foumani au milieu de terrain et Rabiot, la couleuvre, qui font que des passes en arrière. Là, c'est sûr que ça va être compliqué de gagner des matchs.
Donc, t'es d'accord avec nous. S'il fait ça et qu'on perd, ça va entacher forcément son image.
Le bilan, ouais.
Bah, le bilan au global, il sera pas entaché parce qu'il aura fait, un titre et 2 finales de grand championnat encore pendant son mandat.
Mais dans ces cas-là, regarde Pierre, je te renvoie. Alors il y a quelques années, et pourtant on a souffert sous l'ère Domenech, et j'en ai fait partie de ces compositions d'équipe et de ces compositions de groupe à Domenech. Donc je sais de quoi je parle quand je parle de ce sélectionneur-là et le peu de compétences qu'il avait pour occuper ce poste-là. Mais quand même, on a fait une finale de Coupe du Monde avec Domenech.
C'est vrai. 2006.
En 2006.
Tout à fait.
Et pour autant, ça n'a pas suffi à dire après coup. Le bilan de Raymond, il est
un euro très bon. Catastrophique en 2008.
Oui, mais d'accord, mais il a quand même fait une finale.
Ouais, c'est vrai. Merci à Pierre qui est venu au 32-16. Pierre, tu rappelles quand tu veux pour participer à Rotem sans flamme.
Et on récupère Duga qui est plus sur Netflix.
Duga, il a de l'autodérision. C'est une de ses grandes qualités, sachez-le.
Non, mais je remercie pas Pierre.
Alors, Pierre, tout le monde te remercie. Non, mais allez,
c'est fou.
Dans un instant, on ouvre le procès de tous ceux qui pensent que l'OM doit vendre Mason Greenwood. À tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h34 sur RMC, la deuxième demi-heure de Rotten sans flamme. C'est maintenant avec Christophe Dugarry, avec Steve Savidan et avec Benoît Boutron. On est là jusqu'à 20h comme tous les soirs. À 18h45, Chris. On reçoit le policier Chris. Ancien joueur lyonnais international brésilien, bien sûr, qui nous parlera de la Seleção. Mais avant, on va faire un bon procès.
Et on parle de l'OM tout de suite dans Rotten sans flamme.
RMC, Rotten sans flamme.
Je me suis construit dans l'humilité, même si parfois les gens peuvent dire que j'ai un ego. Je suis aujourd'hui au très très haut niveau et je dois encore une fois montrer mes capacités et les compétences que je peux avoir à diriger un club comme le Stade Rennais.
Le procès de Rotten sans flamme.
Alors l'OM attend toujours le verdict de l'UEFA. Les comptes du club sont examinés par la commission de contrôle financier depuis le 2 juin. Le verdict est attendu demain. Marseille risque des sanctions jusqu'à l'exclusion de la Ligue Europa pour la saison prochaine. Autre examen attendu, celui de la DNCG. Ça concerne là le foot français et la Ligue 1 dans quelques jours. Marseille doit vendre d'ici la fin du mois de juin. Et d'après le Corriere dello Sport, accord trouvé entre Greenwood et la Roma. L'anglais est sous contrat jusqu'en 2029. C'est le meilleur buteur du club depuis 2 saisons. Il a 24 ans. Et comme le média italien l'annonce, une première offre à hauteur de 40 millions d'euros pourrait être transmise à Marseille. L'OM en attend 55. On rappelle également, c'est important, que Marseille devra reverser 40% de la somme reçue au club formateur de Greenwood, Manchester United. Ce soir, on va ouvrir le procès de tous ceux qui pensent que l'OM doit vendre Greenwood. Un procureur, Steve Savidan, bonsoir.
Bonsoir.
Deux avocats, Christophe Dugarry, bonsoir.
Bonsoir.
Et Jérôme Rotten, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis un verdict au 32-16, c'est Pablo, supporter de l'OM, qui est là. Salut Pablo.
On a retrouvé.
Bonsoir tout le monde.
Corruption.
Il est de retour.
Pardon. Non, c'est une plaisanterie. Ah,
c'est le championnat de merde.
Tu étais de retour. Tu avais quitté River, tout ça. Allons-y pour ce procès, Steve. Toi, tu penses que Marseille doit essayer de conserver Greenwood?
Ouais, parce qu'en fait, la vraie question, c'est est-ce que l'OM peut se permettre de le laisser partir? J'enlève le côté financier, les 40%, la ventilation financière.
Ouais.
Non, non, non. Je parle juste du joueur. Je parle juste du joueur, déjà d'une. Parce que honnêtement, l'OM est trop irrégulier. Mais par contre, t'as un joueur qui est performant. Alors oui, on peut dire qu'il peut s'améliorer. C'est un jeune joueur. Il peut encore s'améliorer. Il a eu une très bonne adaptation au contexte marseillais. Il a été très performant. Il a débloqué des matchs. Offensivement, il a fait des réelles différences. Alors oui, peut-être que dans un système défensif, il est moins performant. Mais on l'a vu que des systèmes peuvent justement être compensés par le manque d'un joueur qui défend un peu moins. Moi, je trouve qu'honnêtement, si l'avenir de l'OM doit se reconstruire, parce que là, on va parler justement peut-être d'une exclusion sur l'Europe, mais s'ils y sont, bah, va falloir avoir une équipe quand même assez performante pour pouvoir construire quelque chose. On parle aussi d'une saison en Ligue 1, parce que l'ambition de l'OM, je pense que c'est de retrouver la Champions League l'année d'après. Moi, honnêtement, vu la ventilation financière, c'est-à-dire que eux, ils en attendent 50, ça veut dire que 40% va être obligé d'être redonné.
Donc ça veut dire que...
Mais non, mais c'est parce qu'on appelle comme ça en comptabilité, mais je te donnerai un cours de compta si tu veux aussi, du gars. Non,
j'ai mon CAP comptabilité.
Mais c'est vrai, bah, il a pas de
mais
me
moi,
dire.
J'ai moi j'ai mon bac pro. Toi, c'était le CAP métier du football.
Ah, bravo.
Et donc, si tu veux, moi, en purement de joueur, je ne le laisse pas partir. Et au vu de la commission ou de la ventilation que tu dois refaire à 40%, au final, ça n'équilibrera pas positivement tes comptes. Donc c'est pour ça que moi, je garde Mason Greenwood.
Et voilà, c'est clair, c'est concis, c'est précis. Parole à la défense, Jérôme Bretagne.
Écoute, moi, c'est...
Maman
c'est,
est
c'est,
près de toi.
Non, mais c'est simple. Mason Greenwood, déjà, il faut savoir ce qu'il pense, lui, personnellement.
Lui, il a trouvé un accord avec la Roma,
moi,
a priori.
Moi, je suis désolé, mais tous les signaux qu'il a pu envoyer l'année dernière, dans cette inconstance qu'il a pu avoir, ça reste un joueur qui a fait beaucoup de différence. Et moi, j'étais le premier... à le défendre sur certains matchs quand tous les gens s'attardaient sur lui en nous disant bah oui mais il existe pas sur les gros matchs, il existe pas sur
26
ceci,
buts,
cela.
11 passes en 45 matchs.
Heureusement qu'il a été là une grande partie des matchs pour au moins que la saison de l'OM soit un petit peu moins ridicule qu'elle l'a déjà été. Mais une fois que tu as dit ça, forcément, il y a pas beaucoup de joueurs qui ont une valeur marchande. L'OM est en difficulté financièrement, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est l'UEFA qui a deux doigts de les sanctionner déjà pour l'année prochaine. Donc ils doivent vendre. Ils doivent vendre. Et aujourd'hui, vu l'intérêt du joueur, je pense que pour lui, c'est difficile de lui faire croire un projet à Marseille stable, sachant que depuis qu'il est arrivé, c'est changement d'entraîneur, changement de joueur, changement de dirigeant, tout change en fait. Et en plus, le mec, il s'en prend plein la tronche. Donc je pense en effet que lui, il a décidé d'aller voir ailleurs. Et si c'est le cas, comment tu vas retenir un joueur de ce tempérament-là, qui va être plus un poids qu'autre chose l'année prochaine. Donc autant essayer de récupérer un max d'argent comme ils le font. Il y a une offre à 40 millions, peut-être que ça va monter un peu. Bien sûr qu'il y a un pourcentage à la revente pour Manchester United, peu importe, mais ça va faire une petite rentrée d'argent intéressante pour l'Olympique de Marseille. Et puis il faudra reconstruire un nouveau collectif avec peut-être un collectif bien plus fort qu'il l'a été et moins basé sur certaines individualités. Donc c'est pour ça que je te dis que tu peux pas lutter, s'il s'est mis d'accord avec l'AS Roma ou un autre club, tu peux pas lutter. L'Olympique de Marseille aujourd'hui est pas en position de force pour dire écoute Mason, tu restes à l'OM, t'as un contrat jusqu'en 2029. Je pense que là c'était l'ancien football, ça se passe plus comme ça aujourd'hui.
Duga.
Non, mais pour répondre à la question, il y a deux questions qu'il faut se poser. Est-ce que l'OM a les moyens de le garder? Je pense pas. Et est-ce que lui veut rester?
Oui.
Je pense pas non plus. Oui. Donc la question ne se pose pas. Voilà, le joueur doit partir, le joueur va partir. Il a démontré qu'il avait du talent, mais je pense que c'est un joueur décisif, mais c'est pas un joueur leader. Aujourd'hui, l'OM a besoin de repartir sur des bases de compétiteurs, de joueurs qui courent, de joueurs qui s'investissent, de joueurs qui sont prêts à tout donner. Ça sera plus une équipe bling-bling, il va falloir faire des économies. Je pense qu'il faut tout reprendre de la base. Voilà, moi je fais confiance au nouveau directeur sportif. Voilà, pour repartir avec des nouvelles, avec des idées, avec des joueurs qui courent, avec, alors moi je suis pas un grand fan des data, mais pour le coup, ça va, à mon avis, ça va être très utile pour avoir des joueurs qui ont envie de s'investir, qui ont envie de courir, qui ont envie de faire les efforts, qui ont l'âme de leader, qui ont envie de s'investir, qui sont prêts à tout donner pour l'Olympique de Marseille et à mourir sur le terrain, au sens figuré bien évidemment, s'il faut. Et je pense que au-delà du talent qu'il a montré, Greenwood, il a bien montré qu'il n'était pas capable de tout donner sur le terrain quand il fallait le faire.
Bon, le verdict désormais de Pablo au 32-16. Qui remporte ce procès?
Franchement, je suis nuancé. Les deux côtés, il y a des bons arguments. Alors, je suis plus d'accord avec ce qu'a dit Duga sur l'OM plutôt que Jérôme, parce que je trouve que Jérôme, c'est trop la plaidoirie de Jérôme, c'est trop un cliché, je peux pas. Mais par contre, Steve Savidan, très d'accord avec lui, donc je vais donner la victoire à Steve Savidan quand même.
Oh, victoire de Steve Savidan.
Vérité éclate au grand jour.
Surprise. Et je le prends personnellement alors.
Ça, c'est la ventilation qui a fonctionné. Ah,
bravo,
Steve.
Après, si je peux me justifier, c'est juste parce qu'en fait, du gars. Les gars, Jérôme, je suis carrément pas d'accord avec tout ce que t'as dit, c'est vrai, mais t'as le droit de penser ce que
mais
tu veux.
Mais par rapport à quoi? Par rapport à quoi?
Du gars, c'est un pote de pierre.
Alors, je suis d'accord avec l'idée que l'OM n'est pas la Roma, qu'on n'a pas on peut pas avoir les ambitions de pouvoir garder un mec comme ça, parce que oui, en soi, d'accord, on n'est plus personne. On n'est plus des gains, ça c'est vrai. Ça fait des mois que je le dis avec mes collègues, on n'est plus personne. On représente plus rien à l'échelle du football.
Là, on est d'accord.
Après, sur le reste, dans l'idée que, pour moi, en fait, c'est un macourt de remettre la main au pot et de dire, ben, frère, vas-y, c'est moi qui ai fait des conneries c'est moi qui ai choisi l'organisation, c'est moi qui leur ai dit, ben, je vous donne carte blanche pour faire ce que vous voulez. Je me suis foiré dans mes choix de direction, à moi de remettre la main au pot pour remplir les caisses du club. Genre, je suis désolé, c'est pas, en fait, au club.
Ça, c'est dans un monde idéal,
ça, c'est sûr.
Mais moi, en fait, ce que je te dis, c'est mais là, tu fais abstraction de ce que le joueur y pense en fait. Joueur, est-ce que il s'inscrit dans la durée à Marseille avec tout l'état d'esprit qu'il a eu, toutes les claques qu'il a pris dans la tronche?
C'est déterminant, t'as raison.
Moi je pense pas, hein, vraiment.
Merci à Pablo qui est venu au 32-16, victoire de Steve Savidan dans ce procès. Dans un instant, allô Jérôme, on reparle de la Coupe du Monde et du Brésil avec Chris, ex-international brésilien. Est-ce que le Brésil fait partie des favoris? À tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h48 sur RMC, dans un instant, le Allo Jérôme avec Chris aujourd'hui, international, l'ancien international brésilien, la légende de l'Olympique lyonnais, va nous faire l'honneur de venir dans Roten sans flamme. On est avec Christophe Dugarry, avec Steve Savidan et avec Benoît Boutron. Et Benoît, après 19h.
À quoi joue le Real Madrid avec ses élections, la réélection de Florentino Pérez, cette offre refusé par l'Atlético hier concernant Julian Alvarez. On sera avec Edgar Grollo, habituellement notre correspondant en Espagne, mais qui en ce moment est à Mexico à la veille du match d'ouverture de la Coupe du Monde entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Tout de suite, c'est Allo Jérôme.
RMC, Roten sans flamme.
On a récupéré, double into. Neymar, Neymar, oh, le 77e, il est là. Pour venir décanter la situation, le jeu génial. Double into.
Allô Jérôme.
Alors où doit-on placer la Seleção dans le tableau des favoris de cette Coupe du Monde? Le Brésil quintuple vainqueur, la dernière fois c'était en 2002. Le Brésil sixième du classement FIFA, une seule demi-finale depuis ce titre d'ailleurs en 2002, c'était en 2014 à la maison, souvenez-vous le traumatisme contre l'Allemagne, depuis ses quatre éliminations consécutives en quart de finale. Le Brésil fait-il partie des favoris? Chris, ex-légende de l'Olympique lyonnais, ex-international brésilien, est avec nous Jérôme.
Salut Chris.
Bonjour, comment ça va? Vous
salut,
allez bien?
Chris.
Bon, ça va. Salut Chris. Ça faisait un bout de temps qu'on t'avait pas entendu. Hein. Alors, écoute, on avait envie de t'entendre pour célébrer le titre de champion du monde du Brésil.
Non. On part de loin là. Je pense qu'on n'est pas favori du tout. Je pense qu'on peut être la surprise. Mm-hmm. Mais favori, je pense pas.
Tu t'attends à quoi du Brésil dans la façon de jouer? Bon, c'est vrai que nous ici en Europe et en France particulièrement, et tu le sais, le Brésil ça fait rêver, ça a toujours fait rêver. C'est le pays du football, le spectacle avec des joueurs offensifs incroyables. Toi, la génération, elle est quand même moins folle offensivement. On a été obligé de rappeler Neymar, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Tu t'attends à quoi sur cette compète?
Ben déjà, on attend que cette équipe du Brésil commence bien. Je pense qu'on va trouver le Maroc, que c'est le match plus compliqué de la poule.
Dans la nuit de samedi et dimanche, à minuit. Ouais.
Après, cette équipe, déjà, on attend qu'elle joue ensemble. Il a le talent, il a la qualité individuelle. Mais Ancelotti, il arrive, il essaye de monter cette équipe, de faire une équipe compétitive. Mais avec les blessures, surtout de Neymar, on attend beaucoup de Neymar, on parle de lui partout, il était convoqué, il est blessé, il revient des blessures, mais tout le monde était heureux qu'il est là. Je pense qu'il peut faire la différence dans le vestiaire, dans le premier temps. La préparation pour jouer à partir de 12e match contre Haïti. Après, oui, il a Vini Junior, il a Rafinha, il a Matheus Cunha, il a Paqueta, il a plein des
joueurs. Il y a quand même des bons joueurs, bien sûr.
Oui, après, c'est sur le terrain qu'on attend que cette équipe peut marcher bien.
Comment vous les voyez, vous les gars?
Justement, Chris, il y a plein de bons joueurs, il y a un entraîneur renommé. Qu'est-ce qui flanche? Qu'est-ce qui fait que c'est la mentalité des joueurs? C'est quoi le problème?
C'est vrai que quand on prend chaque joueur dans leurs équipes, ils sont bons, ils sont les meilleurs dans chaque équipe, ils sont les leaders, ils sont meilleurs buteurs, ils sont des capitaines, il y a tout. Maintenant, on voit pas cette rigueur en équipe nationale, en sachant que c'est la Coupe du Monde où tout le monde doit tout donner pour amener cette équipe du Brésil au plus loin possible. C'est la mentalité. Non, quand tu prends un Casemiro qui a une mentalité incroyable, tu prends Bruno Guimarães, c'est le capitaine de son équipe, il a Marquinhos, il a Magalhães Gabriel qui a fait une saison énorme.
Incroyable, une belle charnière centrale.
Donc, ouais, il a quand même de la personnalité. Maintenant, c'est l'heure, c'est le moment de transférer tout ça ensemble.
Est-ce que tu penses, Chris, que avec tout ce que tu nous dis et tout ce qu'on constate aussi à travers les résultats du Brésil, la façon de jouer, les manques qu'il peut y avoir, que le Brésil a un petit peu moins de pression et peut être l'équipe surprise sur cette Coupe du Monde?
Oui, on va dire que dans la Coupe du Monde, il a moins de pression. Mais pour nous, Brésiliens, il n'a pas dit, il a et ça existe, cette pression. Ça existe, cette pression, au Brésil, de faire une bonne Coupe du Monde, surtout par rapport à toutes les Coupes du Monde qui est précédente, tu vois, qu'on a vécu, qu'on a été éliminé, que, surtout la dernière contre la Croatie. Ah ouais. Ouais. Donc, c'est pas évident. Aujourd'hui, je pense que le grand problème d'Ancelotti, c'est le système. Quel système il va mettre en place? S'il va jouer en 4-2-3-1, en 4-2-4, comme il avait dit qu'il aimerait bien, ou en 4-3-3.
Mais sans vrai numéro 9, parce que c'est un poste qui pêche au Brésil. On a du mal à trouver l'avancante de cette équipe.
Oui, aujourd'hui, on peut avoir Iger. Matheus Cunha, c'est les deux, entre guillemets, les deux neufs. Hendrick, il joue plutôt, il peut être un neuf, mais il joue plutôt côté.
Est-ce qu'il doit jouer Hendrick, Chris, pour toi?
Non, je pense qu'Ancelotti ne va pas débuter avec Hendrick. Il va garder, parce qu'il a fait deux bons matchs amicaux, les derniers deux matchs amicaux, donc je pense qu'il ne va pas débuter.
Un rapport au ballon?
Je pense qu'il va commencer avec Vini à gauche, Rafinha à droite et Matheus Cunha devant avec Paqueta.
Ok.
Un milieu à trois, mais un deux avec Casemiro et Bruno Guimarães et Paqueta devant.
Bon. Chris, qui va être champion du monde?
Oh là. Il a des belles équipes, hein.
Commence pas à nous sortir 10 équipes, hein.
Non, je pense. Non,
la meilleure équipe, il y a deux favoris, Chris. Il n'y en a pas 50, il y en a deux.
Non, pour moi, c'est la France, c'est la première, avec l'équipe qu'il y a, sur le papier, les joueurs, etc., le talent. C'est énorme. Après, je pense toujours l'Espagne, parce qu'il y a toujours des bons joueurs, des jeunes joueurs, de la qualité. Ils sont toujours prêts à jouer ce type de compétition. Et je pense en troisième, toujours le Brésil comme une surprise.
Quand même, voilà.
Ah bah quand même.
Okay. Bon Chris, merci beaucoup.
Les amis avant l'Argentine.
Avant l'Argentine, champion du monde en titre.
Non, je pense pas que l'Argentine ils vont arriver. Je pense pas.
Tu l'as dit, de toute façon ils sont mauvais.
Et Chris, tu reviens quand tu veux dans Rotten sans flamme tout au long de la Coupe du Monde pour parler du Brésil.
C'est gentil, merci.
Salut Chris.
On t'embrasse. Salut.
Bye bye. 18h56 sur RMC dans un instant. Rotten se chauffe. On va parler du Real Madrid. À quoi joue le Real? Supporters madrilènes, on vous attend au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Rotten sans flamme.